Chapitre 4. Sur la route de Rocadamor s'élevait une petite maison blanche à volets verts. Une allée d'arbres allongeait sa perspective du perron jusqu'à la grille d'entrée. Cette demeure avait l'aspect calme et coquet d'un nid de femme. Le soleil du midi inondait toute la bastide de sa lumière crue, et l'ombre du pignon dessinait sa silhouette sur le sable du jardin. À travers les persiennes à demi fermées, les sons d'un piano s'envolaient dans l'air et passaient sur la route dans un tourbillon de poussière dorée. C'est là que se tenaient, dans leur salon, Mademoiselle Marthe d'Estanges et sa tante, Mademoiselle Isaure. Fille d'un avocat distingué, appartenant à une des plus anciennes familles du Béarn, Mademoiselle Marthe était restée orpheline de bonne heure. Elle avait été élevée par sa tante dans la maison natale, pleine de souvenirs des parents morts, où l'on marchait doucement, où l'on parlait bas, comme pour ne pas réveiller les chers endormis, et où l'on avait conservé, comme un sanctuaire, le cabinet de travail de M. d'Estanges, avec ses grandes bibliothèques remplies d'ouvrages de droit et son bureau tapissé de cuir vert. Des années passées au couvent, Mademoiselle Marthe avait conservé plusieurs jeunes amies qui venaient parfois faire de la musique avec elle. C'était là toutes ses relations. Chaque matin, la tante, dévote sans rigidité pourtant, la conduisait à la messe de 8 heures. Le dimanche était rempli par une grand-messe, les vêpres et une promenade sur le cours. Le reste du temps s'écoulait entre son piano, son métier à tapisser et les fleurs de son jardin. On eût cherché en vain dans toute sa vie quelque chose ayant rompu l'uniformité de cette existence. Elle n'avait jamais eu de grande joie, mais souvent de douce tristesse quand une de ses amies venait lui annoncer son mariage dans une dernière visite. À ces instants-là, elle songeait que l'heure venue de se marier à son tour, elle choisirait le compagnon de sa vie, non pas parmi les joyeux et les triomphants, mais parmi les doux et les délicats. Elle fermerait à jamais sa porte sur le reste du monde, et il vivrait isolé dans une communion d'âmes qui n'aurait pas de fin. Cependant, cet idéal lui apparaissait encore bien lointain, quand un sien cousin, curé près de là et son tuteur, arriva un matin à la Bastide, s'entretint mystérieusement pendant 1 heure avec tante Isaure, puis, ayant fait appeler Marthe, lui déclara qu'il avait trouvé un mari, digne en tout point de lui faire une vie droite et respectée. Mademoiselle Marthe trouva cette décision bien soudaine et bien prématurée. Elle demanda des détails, et son cousin, un très digne et brave vieillard, lui raconta ainsi la chose. « Vous savez, ma chère enfant, quel malheur vous ont frappé dès votre berceau. Depuis ce temps, votre tante a mis tous ses soins à conserver le cher trésor confié à sa garde. Mais nous nous sommes souvent sentis inquiets en songeant que nous avions charge d'âme et que la Providence ne nous compterait peut-être pas assez de jours pour mener à bien notre tâche. Aussi, depuis longtemps, nous pensions à vous marier, à vous mettre sous la protection d'un homme honnête, bon et généreux, pouvant régler solidement votre vie pour le jour où nous viendrions à vous manquer. Je n'ai trouvé dans notre pays aucun jeune homme présentant les solides qualités que je recherchais, et je commençais à m'affliger de la stérilité de mes efforts, quand un secours inespéré m'est arrivé. Un de mes anciens camarades de séminaire, perdu de vue depuis longtemps et parvenu aujourd'hui à une haute situation, m'a écrit pour me demander de l'aider à marier un jeune homme de ses amis, vivant auprès de lui et dont il répond comme de lui-même. Le tableau qu'il m'a fait de l'éducation, des talents et des qualités de son protégé m'a fait croire que je ne saurais trouver pour vous un meilleur parti. De son côté, Monseigneur Banneret a été complètement séduit par la proposition que je lui ai faite de vous unir avec son jeune ami. Dans ces conditions, l'accord s'est facilement établi. Monseigneur est venu à Rocadamor me demander officiellement votre main au nom du jeune homme, M. Gaston Mermex, et je la lui ai accordée. Tous les préliminaires sont accomplis. M. Gaston arrivera ici à la fin du mois, s'installera à l'hôtel comme un simple touriste, et aussitôt, les dernières formalités remplies, je vous marierai. » Mademoiselle Marthe essaya de soulever quelques objections. Elle ne savait si son futur mari lui conviendrait, s'il avait le cœur noble et le visage fait comme elle l'aurait voulu. Mais son cousin lui répondit « Dès l'instant qu'il m'a été présenté par Monseigneur Banneret, vous pouvez croire qu'il réunit toutes les perfections. » Et ce fut tout. Marthe, à partir de ce moment, dut se préparer à épouser M. Gaston, qu'elle n'avait jamais vu, et elle fit de son mieux pour se familiariser avec cette idée. Journal de Henri, 31 mai. Nous sommes partis ce matin pour Rocadamor. Lady Clarkson nous a conduits à la gare dans son panier attelé de deux poneys. Un break suivait derrière avec nos bagages. Nous avons pris l'express pour Bordeaux où nous nous arrêterons. Nous arriverons demain matin à 11 h dans les murs de Rocadamor. Tout le long de la route, j'ai causé avec Gaston de son mariage et de la façon dont il va arranger sa vie. Il vendra, m'a-t-il dit, la vieille maison de sa famille qui se trouve auprès de la mienne, dans le bourg de Chavernay, à une dizaine de lieues de Mareuil, et il achètera une propriété voisine du parc de Lady Clarkson. En attendant, il habitera le château, où sa femme trouvera une vie plus animée. De cette façon, il pense que nous serons tous réunis, puisque le travail que j'ai commencé dans la galerie me demandera encore 6 mois, au moins. 1er juin. Rocadamor. En sortant de la gare, nous nous trouvons sur une petite place. En face, sur une éminence, se trouve une sorte de calvaire avec une grande croix qui étend ses bras sur le ciel. Au tournant de la route, une voiture découverte est arrêtée. Je vois dedans deux femmes en deuil, l'une très âgée avec des bandeaux blancs et l'autre mince et fine, le visage très blanc encadré de cheveux bruns. « Je pense que c'est ma fiancée, » dit Gaston. « Je le crois aussi, car elle nous regarde attentivement. » Nous sommes montés dans la voiture de l'hôtel, et par la portière, nous voyons les deux dames s'en retourner aussitôt après notre passage. Sans doute, cette jeune fille est bien celle que Gaston va épouser. D'ailleurs, nous le saurons bientôt, car il doit faire demain matin sa première visite à Mademoiselle d'Estanges, et il m'emmène avec lui. Nous arrivons à l'hôtel des Trois Rois, où nous nous installons dans deux chambres contiguës. Elles ouvrent sur une sorte de balcon de bois construit à l'espagnol. On y jouit d'une vue magnifique. Au fond, des montagnes couleur d'améthyste croisent leurs lignes onduleuses. Au bas, une petite rivière appelée ici le Gave fait papilloter sous le soleil son eau limpide, coupée de loin en loin par de petites écluses. À droite, sur une place plantée de grands arbres bien alignés, s'élève la mairie qui fut, dit-on, la demeure de Jacques Cœur, argentier du roi Charles VII. À gauche, un vieux couvent de pénitents bleus, dont le pignon démantelé conserve une grosse cloche suspendue dans son ogive. Des femmes passent avec des jupes courtes, en drap bleu, bordées de larges bandes de velours noir, les épaules couvertes d'une mantille de soie et coiffées d'un foulard de couleur vive. Est-ce que la fiancée de Gaston s'habille ainsi? Son visage m'a paru bien doux. Ses yeux sont bleus. Cela doit être rare ici, car toutes les autres femmes m'ont paru avoir l'œil noir et dur. C'était en effet Mademoiselle d'Estanges et sa tante qui s'étaient fait conduire à la gare pour apercevoir le voyageur annoncé. Au moment où Gaston et Henri apparurent sur la place, l'embarras de ces dames fut extrême. « Lequel des deux est M. Gaston ?» demanda Marthe. « C'est le plus petit, je pense. »« Je ne sais, » dit la tante, « mais je crois plutôt que c'est le plus grand. » Le blond avec ses favoris? Oh non, ce doit être le plus jeune avec ses grands cheveux. Pourquoi voudrais-tu que ton fiancé eût des grands cheveux? Je ne le sais pas, mais enfin, quelque chose me dit que c'est lui. Ne te fixe pas l'esprit là-dessus avant qu'il soit venu. Dis-toi qu'il est brun ou blond, gros ou mince, doux ou grave, et après cela, tu n'auras pas de déception. Ces paroles sages n'arrêtèrent pas l'imagination de Mademoiselle Marthe. Elle se persuada complètement que son futur mari était bouclé comme Saint-Georges et pâle comme Lord Byron.